Votre magazine santé sur Europe 1, Mélanie Gomez.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et bien-être. Chaque dimanche de 10h à 11h, nous répondons à vos interrogations. Idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, l'émission Santé et bien-être, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. À mes côtés, comme tous les dimanches, le docteur Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Jimmy, alors je rappelle que vous êtes médecin urgentiste et votre quotidien, quand vous n'êtes pas ici, à Europe 1, c'est d'aller au domicile des patients, en tout cas ici, tous les dimanches, à mes côtés. C'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont nous allons prendre soin. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au ronflement. Avec notre invité, le docteur Yves-Victor Camami, ORL à Paris, on fera le point sur pourquoi on ronfle d'une part, certains plus que d'autres, et puis sur les solutions pour soigner ça. Mais au fond, est-ce que c'est si grave? On verra quand même qu'il y a des cas où les ronflements cachent aussi un syndrome à prendre, lui, très au sérieux, l'apnée du sommeil. Mon coup de cœur du jour, il sera aujourd'hui pour les hôpitaux universitaires de Genève et pour leurs chercheurs qui ont mis au point des berceuses, enfin plutôt des morceaux de musique spécifiques qui font du bien au cerveau des grands prématurés. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour qui risque d'intéresser tous ceux qui sont sur la route des vacances ou du retour. Il va nous dire ce qu'il faut manger avant de prendre le volant pour éviter notamment la somnolence. Ensuite, dans les bobos de l'été, nous évoquerons les gestes qui sauvent. Concrètement, si demain, vous êtes témoin d'un malaise cardiaque à la plage, par exemple, quoi faire? Le bouche à bouche, le massage cardiaque, appelez le 15, on vous dira tout ce qu'il faut savoir. Enfin, vers 10h50, ça sera la chronique sexo de l'émission. Comme tous les dimanches, cette semaine avec Catherine Blanc, notre sexologue, nous allons parler des vieux couples. Alors, pas au sens couple de gens âgés d'ailleurs. En tout cas, on va vous donner tous les conseils pour entretenir la flamme d'un point de vue sexuel après 10 ou 20 années de mariage ou même plus bien sûr. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine Santé Bien-être, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Romain, 29 ans, qui vit à Paris et qui a mal au dos, semble-t-il, on l'écoute.
Oui, bonjour, je vous appelle, parce qu'en fait j'ai mal au dos depuis déjà 2 semaines, et donc je suis allé voir à plusieurs reprises mon médecin pour lui faire part un peu de mes préoccupations, et il a refusé du coup de me mettre en arrêt maladie. Alors je suis un petit peu embêté, je voulais savoir ce que vous en pensiez et s'il n'y avait pas quelque chose à faire vis-à-vis du médecin. Merci beaucoup pour vos renseignements.
Ça vous fait sourire, Jimmy Mohamed. Je crois que vous avez beaucoup de sollicitations sur le mal de dos, non? C'est
oui,
souvent un motif d'appel, non?
Ça vient très fréquemment. Et c'est vrai qu'il y a parfois une incompréhension de la part des patients qui ne comprennent pas pourquoi on ne fait pas d'arrêt. Alors, c'est pas parce qu'on veut pas, parce qu'on est méchant. C'est juste qu'on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Et qu'au contraire, les gens, s'ils gardent une activité physique, alors modérée, bien sûr, le travailleur de force, celui qui travaille dans le bâtiment, on va évidemment l'arrêter. L'aide-soignante qui porte des malades du matin au soir, on va l'arrêter. Mais vous et moi qui travaillons finalement de façon assez sédentaire, on peut aller travailler. On s'est rendu compte qu'au contraire, on améliore la récupération et qu'il est fini le temps où il fallait rester allongé une semaine.
Oui, avant, on se disait surtout rester une semaine couché sur une planche bien dure.
Eh ben,
ça, c'est prouvé finalement le contraire. Hein. Donc, on peut bouger. Alors, bouger, ça ne veut pas dire qu'on fait faire un marathon. Mais c'est des activités du quotidien qu'on fait à son rythme avec la douleur.
Exactement.
Quoi, c'est ça
aller faire quelques courses, emporter des packs d'eau, continuer à cuisiner, marcher quelques pas dans la rue. Eh ben, ça suffit finalement à relancer un petit peu le muscle et pour permettre d'avoir moins mal au dos. Parce que finalement, le problème de dos, c'est plutôt un problème de muscle que de dos.
Donc, on guérit plus vite si on bouge. Hein.
Exactement.
C'est ça, c'est prouvé. Hein.
D'où le fait d'avoir une activité physique, de se lever le matin, de prendre les transports en commun, d'aller au travail. Et puis ça permet du coup de limiter la casse. Et puis financièrement, s'arrêter, ça a aussi un coût.
Ça veut dire que du coup, on bouge très bien, mais on ne prend même pas de médicaments. Quoi. On reste avec cette douleur-là et on bouge.
Alors, on peut se passer de médicaments, mais parfois on en prescrit. Alors moi déjà, je déconseille tout ce qui est décontractant musculaire. Ça ne marche pas tellement. Et en plus, il peut y avoir des effets secondaires. Et parfois, on peut commencer par du paracétamol. Et puis dans certains cas, on prend des anti-inflammatoires qui permettent de soulager les douleurs. Mais après avis de votre pharmacien, ou consultation chez votre médecin.
Merci beaucoup Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question. C'est celle de Chloé, cette fois, elle a 25 ans, de Rennes. Elle nous a posé cette question au 3921.
J'étais chez l'esthéticienne il y a quelques jours et la dame m'a conseillé de faire une épilation définitive à la lumière pulsée. Mais alors voilà, moi je me demande, c'est pas mieux de le faire chez le dermato? Est-ce que c'est pas plus sécurisant pour ma peau? Je voulais avoir votre avis. Merci beaucoup.
Alors merci beaucoup Chloé donc pour cette question. Ça me donne l'occasion de rappeler quand même ce qu'on entend par épilation définitive. Alors concrètement, contrairement à l'épilation à la cire, au rasoir ou aux crèmes, l'épilation définitive, elle est censée, Jimmy, on est d'accord, éliminer durablement le poil. Alors c'est le rêve de toutes les femmes et peut-être même de quelques hommes aujourd'hui. En fait, le principe, c'est de brûler la racine de ces poils et donc de détruire complètement le bulbe pour que ça repousse plus, c'est ça?
Oui, exactement. Et donc, on s'est rendu compte que le laser était très efficace. Alors, bon, on peut aller chez l'esthéticienne pour faire certaines choses, mais si on parle de d'épilation laser, c'est sous supervision médicale. C'est les dermatologues alors, qui doivent s'en occuper, même si le poil n'est pas vraiment un problème médical. Moi, j'incite les gens à ne pas suivre ce qu'on voit parfois sur Instagram, soi-disant expertes mode, expertes santé, bien-être, qui font ce genre d'épilation de façon un peu clandestine. Donc ça, c'est dans des centres, sous supervision d'un dermatologue, même si ce n'est pas forcément le dermato qui le fait. Lui, il est là en cas de problèmes, par exemple de brûlure.
Oui, parce qu'un laser, c'est quand même un outil médical, en fait. Et donc, si c'est mal réglé, par exemple, ou mal entretenu, j'imagine, ça peut être très dangereux.
Exactement. D'où le coût, parfois un peu important. Mais c'est vrai que sur le long terme, le laser reste intéressant. Donc, c'est sous le contrôle d'un médecin. Parce qu'en cas de brûlure, notamment, eh ben, lui, il pourra vérifier ce que vous avez, prescrire un traitement et suivre l'évolution. Donc, il faut des compétences médicales. Donc, on fait ça sous supervision d'un médecin.
D'accord. Et du coup, en plus, ce laser, justement, si on l'utilise... Pourquoi avoir un dermato, c'est important? Parce qu'aussi, on peut avoir des types de peaux différents. Donc, j'imagine que le laser, on ne l'utilise pas pour une épilation définitive de la même façon, ni réglé de la même façon pour une peau très blanche que pour, par rapport à une peau très mat.
Exactement.
Max,
et puis, en fonction des zones, on n'épile pas de la même façon le maillot que les poils du nez, que ce qu'on peut avoir dans les oreilles. Donc, il y a un réglage à faire, il y a un type de peau, il y a un interrogatoire médical sur comment est votre peau, est-ce que vous avez des pathologies, est-ce qu'il y a des contre-indications.
Ça, et si on a même une petite touche, enfin une petite tache, je veux dire, ça peut être, si on envoie un laser sur quelque chose qui est peut-être un début de mélanome, ça peut être dangereux, effectivement.
D'où l'idée d'avoir une supervision médicale. Et donc de ne pas laisser, se laisser attirer par les sirènes du bas prix, du low cost.
Parce que c'est moins cher.
C'est moins cher, mais ça reste très efficace. Alors, il faut 4 à 5 séances en fonction des zones.
Et ça marche bien, ça va bien. Ça élimine combien de poils?
Dans 80% des cas, ça élimine quasiment l'intégralité des poils. Mais il faut quand même refaire les séances. Parfois, au bout de 2-3 ans, il faut parfois recommencer. Mais quand même, ça reste un confort. Pour les femmes, mais aussi pour les hommes, on ne va pas se mentir. Ma femme a essayé de me traîner pour les poils dans les oreilles. Elle n'a pas réussi encore, mais ça peut être pas mal.
Il paraît qu'il y a beaucoup plus de demandes masculines, effectivement. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des appareils justement d'épilation définitive, maintenant qu'on peut acheter pour se faire à la maison. Alors j'imagine que si vous conseillez le médecin déjà par rapport à l'esthéticienne, à la maison, c'est encore pire. Ça peut être très dangereux, j'imagine.
Ça peut être dangereux. Alors, c'est moins cher, effectivement, mais c'est aussi moins efficace. Et ça peut être aussi plus dangereux. Donc moi, je pense que mieux vaut le déconseiller, mieux vaut faire ça quitte avec un expert, plutôt que tout seul, même si les résultats sont corrects et sont acceptables si on a un peu moins de moyens.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Chloé qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé-bien-être au 39-21, 50 centimes la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons dès dimanche prochain avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, je vais vous livrer mon coup de cœur du jour. Cette semaine, coup de chapeau pour des chercheurs suisses qui ont mis au point une playlist des morceaux de musique pour faire du bien au cerveau des prématurés. Et le docteur Jimmy Mohamed, lui, vous donnera, comme tous les dimanches, son bon conseil de l'été. Aujourd'hui, il nous dira ce qu'il faut mettre dans son assiette pour être au top de sa vigilance avant un long trajet en voiture. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Heureuse de vous retrouver dans votre émission Santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque dimanche jusqu'à 11h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Avant de retrouver dans quelques minutes le docteur Yves-Victor Kamami pour parler des ronflements, c'est le moment de mon coup de cœur du jour. Et juste après, des bons conseils de Jimmy qui nous parlera des voyages en voiture, de ce qu'il faut manger justement avant de se mettre au volant. Alors, mon coup de cœur du jour aujourd'hui, il est pour ces médecins, ces chercheurs suisses qui ont eu une très jolie idée pour apaiser les bébés grands prématurés. Alors, les grands prémas, je rappelle que ce sont des bébés qui sont nés entre la 24e et la 32e semaine de grossesse, donc en dessous de 7 mois de grossesse. Et donc, ces petits chouchous qui pèsent parfois moins d'un kilo, leur première semaine de vie, ils les passent en couveuse chauffante, branchée à des tas de machines pour les nourrir, les aider à respirer. Donc, des machines indispensables, bien sûr, mais qui font pas mal de bruit et toute cette médicalisation, ça peut générer pas mal de stress aussi pour eux, pour ces tout petits bébés. Certains disent même l'environnement trop stressant des soins dans ces services, ça peut générer des déficits neuronaux, surtout s'il manque par ailleurs de stimulation, au contraire agréable, structurante, c'est-à-dire des câlins, du pot à pot. Bref, résultat, ces chercheurs suisses ont eu une super idée, demander à un musicien de composer des morceaux spécialement adaptés à ces nourrissons. 8 musiques spécialement conçues pour rythmer la journée de ces bébés. Vous allez entendre un extrait, ce sont des sortes de paysages musicaux qui relaxent profondément, donc tout en stimulant l'activité cérébrale grâce à des sons de clochettes par moment ou même une petite flûte indienne aussi. On écoute un extrait. Bon, je crois que c'est très clair, hein, cette musique est très apaisante et pas que pour les bébés. Jimmy, vous avez l'air de vous endormir.
Très bien, je suis détendu.
Mais sur eux, en tout cas, ces chercheurs donc, ont vraiment testé scientifiquement l'effet de ces musiques. Ils ont pris 40 grands prématurés qu'ils ont divisés en deux groupes et les résultats sont assez spectaculaires. Grâce à des IRM au repos, ils ont pu voir que le développement des cerveaux de ceux qui avaient été exposés à ces musiques était davantage similaire à celui des enfants nés à terme. Alors maintenant, ils doivent encore affiner leurs résultats et ils vont aussi évaluer l'effet de ces berceuses sur le long terme en suivant ces bébés, qui pour certains ont aujourd'hui d'ailleurs 6 ans, pour voir si ces musiques dans leur couveuse hein, ont pu avoir d'autres effets sur leur développement dans les années suivantes. Voilà. Alors docteur Jimmy, vous, je vous sens effectivement très relaxé là, après avoir entendu ce petit extrait, mais votre avis sur cette expérience?
Je trouve que c'est formidable, on a fait beaucoup de progrès quant au nursing des nouveau-nés et des prématurés. On oublie le stress que c'est, ils étaient dans un monde intra-utérin, au chaud, et puis on les sort de façon prématurée, on leur met des machines pour respirer, des tubes dans la gorge parfois, une sonde dans le nez, dans l'estomac, il y a des bruits, il y a des scopes. Et donc le fait d'avoir ces moments apaisants et ces moments de renforcement positif, on se rend compte que pour la maturation cérébrale, c'est positif. Donc les infirmières font énormément, on change de position le bébé fréquemment, on essaie de lui faire des câlins, le pot à pot, ça paraît tout bête mais c'est vital.
Et oui, en unité de néonatologie aujourd'hui, c'est des choses quand même
exactement
auxquelles on pense.
On accroche des petites cibles pour qu'ils puissent stimuler les yeux, donc en fait on a fait énormément de progrès.
On sait qu'il faut les stimuler, pas
exactement,
juste les laisser dans
pas
la couveuse.
Pas juste les nourrir, les faire respirer.
Bien sûr, c'est vital mais pas suffisant.
Et donc on a fait heureusement d'énormes progrès, les choses évoluent d'année en année, donc c'est très positif.
Merci beaucoup Jimmy, alors maintenant ça va être à votre tour pour votre bon conseil du jour. Et aujourd'hui vous allez nous parler de ce qu'il faut mettre dans notre assiette pour être au top de sa vigilance avant un long trajet en voiture. Alors d'abord, moi je ne savais même pas que l'alimentation ça pouvait avoir un rôle en fait. Il y a une étude je crois qui a été publiée récemment là-dessus qui a montré quoi concrètement en fait?
Alors on s'est amusé dans des conditions expérimentales bien sûr à prendre 3 groupes de patients et chacun va manger des choses différentes. Un groupe va manger très gras, l'autre va manger plutôt léger et le troisième on va les laisser à jeun. Et on s'est rendu compte que les gens qui étaient à jeun conduisaient mieux et avaient de meilleurs réflexes que ceux qui avaient pris un repas très gras, très lourd. Donc concrètement, plus vous mangez lourd, plus il y a un risque de somnolence, plus vos réflexes vont être augmentés, donc un risque d'accident.
Donc quand on mange trop lourd, par exemple, on freine moins vite, c'est ça? Les distances de freinage, elles sont plus longues, c'est ça?
Exactement. Dans le groupe où les patients en mangeaient beaucoup, on s'est rendu compte que pour 60% d'entre eux, ils s'arrêtaient 10 mètres en retard par rapport aux autres.
10 mètres, c'est
donc
énorme.
10 mètres lors d'un accident, ça peut faire basculer des vies. Donc il y a un réel impact. Donc concrètement, il ne faut pas trop manger.
Et il ne faut même peut-être pas manger du tout, j'ai l'impression, parce que les plus efficaces, c'est ceux qui ne mangent pas.
Mais l'idéal, c'est d'être à jeun. On oublie que le fait de manger, en fait, ça, c'est un effort. Et donc on doit redistribuer du sang vers l'estomac pour la digestion. Et donc le pire moment où manger, c'est 40 minutes avant de prendre le repas. Parce que c'est le moment.
Le volant.
C'est le pire moment pour manger, c'est 40 minutes avant de prendre le volant, parce que c'est le moment où on a le pic, justement, de digestion. Et c'est le moment où on est somnolent et donc à risque de faire des accidents.
Alors si on est incapable de rester à jeun comme moi le matin avant de prendre la route, on fait quoi? Parce qu'on peut manger quand même des petites choses un peu légères. Qu'est-ce que c'est votre menu idéal pour prendre la route?
Alors un, c'est de l'eau. Deux, c'est
super, je vais être vachement bien calé avec ça, de l'eau.
De l'eau, d'accord. Oui, non, mais c'est s'hydrater. Parce que par exemple, vous rigolez, mais les gens aiment bien prendre des boissons énergisantes. Et donc moi, j'aimerais rappeler que dans les boissons énergisantes, il y a moins de caféine que dans un café normal. Donc vous pouvez prendre un café, mais évitez tout ce qui est soda boostant. Yaourt, une salade, une pomme, ça suffit. On met de côté le hamburger, le saucisson,
rien de gras,
la charcuterie.
Rien de trop sucré.
Exactement. C'est un peu du
léger.
Bon sens et ça permet d'avoir de meilleurs réflexes si on ne peut pas rester à jeun. Mais à jeun, c'est la meilleure des choses.
Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons donc notre invité pour le dossier du jour. On va parler des ronflements aujourd'hui. Certains ronflent plus ou moins tous les jours, plus ou moins fort. Parfois, ce n'est pas bien grave. C'est surtout dérangeant pour celui qui dort à côté. Je sais de quoi je parle. Mais on va voir qu'il y a des traitements. Car d'ailleurs, parfois, c'est nécessaire de traiter car les ronflements, parfois, cachent une autre maladie plus grave, l'apnée du sommeil. Bonjour docteur Yves Camami, je rappelle que vous êtes ORL à Paris. Alors on va juste commencer par une petite question. D'abord, pourquoi on ronfle physiologiquement? Qu'est-ce qui se passe dans notre nez, dans notre gorge en fait?
Alors le ronflement est lié à une sorte de vibration des tissus au passage de l'air et lorsqu'il y a une sorte de rétrécissement des voies aériennes. C'est cette vibration qui va entraîner donc le ronflement. Le ronflement peut être de deux types, soit il peut être donc de type lingual ou de type velaire du voile du palais.
Le lingual, c'est celui
le
qui ronfle comme
c'est
ça.
Celui-ci. Exactement.
Et l'autre, c'est le cochon. Quoi.
Et l'aluette, c'est le bruit du cochon. Voilà. Celui-là. C'est celui qui, en fait, fait le plus de bruit pour l'entourage et qui gêne le plus les gens.
Merci beaucoup, docteur Camami. Alors, vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons continuer à parler des ronflements, des traitements, bien sûr. Et vous allez voir qu'il existe plusieurs solutions pour que votre mari ou votre femme, d'ailleurs, arrête de concurrencer les bruits du marteau-piqueur. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Nous sommes ensemble ce dimanche jusqu'à 11h pour votre émission Santé Bien-être. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et le docteur Yves-Victor Kamami, ORL à Paris, avec qui nous parlons aujourd'hui de ronflement.
Ah oui, alors. Mais t'es chez vous, Mélanie, hier, c'est ça ?
C'est pas moi. Alors, docteur Kamami, on dit tout à l'heure qu'il y a deux types de ronfleurs. Là, on a entendu quoi ? Un cochon ou un bruit de langue ?
C'est plus le côté
là,
cochon.
Là, c'est un cochon. Alors, je crois qu'il y a
l'aluette.
Je crois qu'il y a des familles de ronfleurs déjà. D'abord, oui. Il y a des familles dans lesquelles on fait tous le bruit du cochon ou tous l'aluette, quoi, c'est ça ?
Tout à fait. Il y a des familles de ronfleurs. Notamment lorsque la voûte est un petit peu gothique, non pas ogivale au niveau du fond de la gorge, c'est plus souvent des ronfleurs familiaux. Et il y a aussi des gens qui ont une luette ou un boile du palais très épais et très long, de façon familiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ronflement apparaît surtout à partir de 40 à 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a un relâchement des tissus du fond de la gorge vers 40 à 50 ans, ce qui fait qu'il y a plus de ronfleurs. Et il y a une différence entre les hommes et les femmes, puisque l'homme, lui, va commencer à ronfler vers 40 à 50 ans, mais la femme va ronfler à peu près 10 ans plus tard, car elle est protégée par les hormones de la ménopause.
Alors justement, question fatidique, hein, entre les hommes et les femmes, il y a une différence quand même, vous disiez donc cette différence d'année. En tout cas, on a été posé la question à quelques femmes dans la rue, justement pour, vous allez entendre la conclusion, hein, ronfler, elle ne l'assume pas beaucoup, sans aucune mauvaise foi bien sûr, c'est clairement un truc d'homme pour elle.
Non, je ronfle pas, je suis une princesse. C'est comme le poids, c'est comme tout ça, c'est des sujets tabous, ça, on le dit pas.
Oui, je pense que de temps à autre, j'aurais pu ronfler, hein. C'est pas interdit, mais en tout cas, enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de retour dans ce sens non plus, donc.
Non, je crois pas que je ronfle, on l'a jamais dit.
Là, je lui avoue, là, devant vous, pour la première fois de notre vie, qu'elle ronfle. C'est terrible, je sais pas comment elle va le prendre.
Non, je ronfle pas.
Voilà, bon, on a compris que les femmes n'assument pas beaucoup de ronfler, en tout cas c'est ça.
Elles n'assument
vous
pas
confirmez
du tout.
Ça, vous le voyez en consultation.
Et puis ouais. En fait, elles viennent dès qu'on leur fait la remarque ou dès que vraiment leur partenaire ne supporte plus, elles n'attendent pas, elles consultent très vite. L'homme va attendre plusieurs années avant de venir consulter, la femme va venir très vite parce qu'elle en a honte. Elle en a honte et vraiment, elle ne l'assume pas du tout.
Alors quand elle ronfle, vous avez dit, c'est surtout plutôt après la ménopause, parce que les hormones les protègent avant cet âge-là. Mais par contre, une fois qu'elle ronfle, elle ronfle aussi bruyamment que les hommes. Les femmes et les hommes ronflent
un peu moins fort, parce que le voile du palais des femmes est un petit peu plus fin et moins gênant. Mais par contre, la femme qui fume va ronfler 10 ans plus tôt que la femme non fumeuse, puisqu'en fait, il va y avoir une sorte de relâchement du voile du palais plus important chez la femme qui fume.
Une bonne raison de ne pas fumer, encore
Exactement.
Une fois. D'accord. Jimmy Mohamed ?
Alors, moi, je suis encore un peu jeune, j'ai 32 ans, et ma femme dit que j'ai beaucoup de qualités, et un défaut, c'est que je ronfle.
Oui.
Et moi, je lui dis à chaque fois, je ronfle parce que je suis fatigué. Tu comprends, j'ai de longues journées, je travaille dur. Est-ce qu'il y a un impact, une corrélation entre fatigue et ronflement, ou finalement, j'essaie de me trouver
Tout à fait. Il y a un impact entre fatigue et ronflement, mais là, ça va être plus le ronflement lingual, c'est-à-dire que le ronflement de la langue.
Jimmy ronfle plutôt comme ça.
Voilà, apparemment. Exactement. Et en fait, la raison est là. Et c'est en fait souvent le ronflement qu'on a surtout sur le dos, plus que sur le côté. Et ce ronflement lingual va être vraiment directement lié à le relâchement musculaire, et notamment lié à la fatigue, mais qui peut être aussi lié à l'alcool. Ce relâchement musculaire de la langue bascule vers l'arrière. Et là, on a plus de ronflement, bien entendu, lorsqu'on est épuisé, fatigué.
Ah, mais est-ce que je dois aller consulter ? Parce que moi, ça ne me gêne pas dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui ferait que devrais aller voir l'ORL ?
Vous avez parlé tout à fait de ce qu'il fallait dire. Le somnolence au volant, un tiers des accidents de la route sont liés à la somnolence par l'apnée du sommeil et le ronflement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la somnolence est le facteur majeur qui incite à consulter. C'est-à-dire que dès que vous avez somnolence et ronflement, là, il faut penser à consulter un médecin parce qu'il y a réellement un risque d'apnée du sommeil.
Alors l'apnée du sommeil, justement, on en parlera juste après. D'abord, on revient sur le ronflement, le ronfleur maximum, on va dire, on peut ronfler jusqu'à combien de décibels ? C'est quoi votre record, par exemple, dans vos patients en consultation ?
Le record Guinness, c'est à peu près autour de 90 décibels.
Ça correspond à quoi ?
Il faut savoir que c'est énorme, c'est quasiment un poids lourd en pleine action, donc vraiment, c'est très très fort. Et donc, on peut comprendre que les murs tremblent.
J'ai plutôt une petite voiture à côté de moi, ça pas encore, on n'est pas encore sur le tractopelle. Mais du coup, ça correspond. C'est des gens qui peuvent réveiller les voisins aussi.
C'est impossible. Il y a des gens qui, un de mes patients, ronflait tellement que lorsqu'il allait à l'hôtel, il prenait plusieurs chambres, une pour sa femme et une pour son hôtel. Un autre patient qui avait un voilier, lorsqu'il devait dormir, il rentrait au port pour pouvoir. Il ne pouvait pas, dormir avec d'autres personnes dans le voilier, ça réveillait tout le monde. Donc, c'est vraiment des fois insupportable.
Je crois que vous avez une anecdote sur le président Roosevelt aussi.
Exactement. Theodore Roosevelt, au début du XXe siècle, avait été hospitalisé dans une aile de l'hôpital. Ils avaient été obligés de déménager tous les patients de l'aile parce que toutes les patients de l'aile de l'hôpital étaient réveillés par ces ronflements.
Alors, justement, ronfler un peu, beaucoup, comme un camion ou pas, à partir de quand? Vous parliez de somnolence pour le cas de Jimmy Mohamed, mais est-ce qu'il faut aller se faire traiter? Enfin, je suis un gros ronfleur, mettons, j'ai pas forcément d'apnée, on en parlera après. Je consulte, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi?
Alors déjà, première chose, c'est que l'ORL, il faut aller voir un médecin ORL, premièrement, qui va vérifier un petit peu l'anatomie. L'anatomie, c'est-à-dire voir s'il y a un problème d'obstruction nasale. Première zone de...
Nez bouché,
exactement. C'est la première zone où il y a une vibration des tissus. Ensuite, si on suit le trajet de l'air jusqu'à la gorge, on a ensuite le voile du palais qui peut ronfler, et enfin, la langue. Donc l'ORL va déterminer déjà quelle est la cause principale, si c'est surtout le nez, le voile du palais ou la langue, qui va être responsable du ronflement. Il arrive très souvent d'ailleurs que ce soit les trois à la fois, surtout quand il y a des ronflements très sonores.
Alors du coup, mettons qu'on m'a débouché le nez, si ça vient plutôt de la gorge, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Il y a des orthèses, je crois. Expliquez-nous ce que c'est que ces orthèses, justement.
Alors, pour le ronflement de la langue, notamment, c'est l'orthèse. L'orthèse est un appareil qui va permettre d'avancer les dents du bas par rapport à celles du haut.
Donc on met dans la bouche la nuit.
On met dans la bouche la nuit. Il y a deux types d'orthèses. L'orthèse du pharmacien qui, en fait, n'est pas sur mesure. Donc, en fait, elle va se mouler après l'avoir mis dans l'eau chaude, donc au niveau des dents du palais. Et l'orthèse du dentiste va être, elle, plus professionnelle puisqu'elle va être faite sur mesure avec une empreinte.
Ça ressemble un peu à un cache-dent pour les rugbyman, là, par exemple.
De cache-dent des boxeurs. C'est un petit peu ce que les boxeurs mettent pour, avant de dormir.
Mais ces orthèses, elles sont un peu douloureuses parce que c'est vrai qu'on parle de ça et on a l'impression que c'est un traitement miracle, mais on oublie de dire aussi, je parle sous votre contrôle, que ça fait avancer la mâchoire et donc il faut y aller progressivement et que c'est pas forcément bien toléré.
Alors, il y a plusieurs biellettes, on appelle ça des biellettes, qui permettent d'avancer progressivement, justement, de pas avancer d'un coup, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'ATM, l'articulation temporomaxillaire, enfin au niveau de l'oreille, ça peut être douloureux pour le patient. Donc il est important, déjà, première chose, de commencer par le plus simple, peut-être par l'orthèse du pharmacien, qui est le plus simple et beaucoup moins cher. Si ce n'est pas suffisant et si c'est mal toléré, on peut passer à celle du dentiste, qui est beaucoup plus efficace, mais aussi beaucoup plus cher.
Et les petits moyens qu'on connaît tous, siffler, mettre une balle dans le dos pour éviter de dormir sur le dos, taper, est-ce que ça peut servir à quelque chose?
Lorsque vous parliez du ronflement de la fatigue, lié à la fatigue ou de l'enflement qu'il y a personne qui a bu beaucoup d'alcool, c'est très efficace de mettre cette balle dans le dos, une balle de tennis dans le dos, ou d'avoir une ceinture qui permet d'avoir une balle en arrière et qui vous permet de vous obliger à chaque fois de vous mettre sur le côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous dormez sur le côté, la langue ne bascule pas en arrière. Et donc, elle ne vibre pas. Et donc, on évite le ronflement lingual.
Merci beaucoup, docteur Kamami. Alors, tout de suite, on va parler également des lasers ou de la radiofréquence qui permettent de traiter les ronflements. Et puis surtout, on va faire un point sur ces ronfleurs qui font aussi de l'apnée du sommeil. Ça, c'est très sérieux. Hein. Vous allez voir, si ce n'est pas traité, il y a vraiment de très gros risques à long terme pour le cœur et le cerveau, notamment. Mais il y a des solutions pour éviter ces dégâts. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Yves-Victor Kamami, ORL à Paris. Donc on parle aujourd'hui des ronflements, on a parlé juste avant des orthèses, ces espèces de petits protège-dents qu'on peut mettre dans la bouche pour dormir la nuit et ça empêche de ronfler certains ronfleurs. Mais il y en a qui ont besoin de techniques un peu plus poussées, notamment le laser ou la radiofréquence sont très efficaces. Qu'est-ce que c'est exactement?
Il faut savoir que 80% des ronfleurs ont un ronflement d'origine vélaire, c'est-à-dire du voile du palais et de l'aluette. Et ce ronflement est lié à relâchement des tissus, donc de l'aluette qui bascule un petit peu, qui flotte comme un drapeau la nuit lorsque l'on dort. C'est le ronflement du cochon, le ronfleur, celui-là. Celui-ci, c'est le plus fort, c'est le plus gênant et c'est celui qui va jusqu'à 90 décibels. Celui-ci, donc, peut être traité de deux façons, soit par la radiofréquence, qui est un petit appareil qui permet de retendre un petit peu comme un lifting l'aluette, mais elle a un petit inconvénient, cette radiofréquence, c'est qu'elle ne marche que 2 ans, donc a priori tous les 2 ans, il faut le refaire, c'est pas définitif. L'autre technique laser consiste à faire une petite fente au milieu de l'aluette, de garder l'aluette et une fois que la fente est faite au plein milieu de l'aluette, eh bien le tissu qui s'appelle...
On se retrouve avec deux aluettes.
C'est pas deux aluettes parce qu'en fait elle s'écarte mais elle revient vers le milieu quand en fait l'aluette continue à travailler comme avant, en fait à faire permettre une déglutition tout à fait normale. Le patient ne change ni la voix ni la déglutition, mais par contre cette petite opération d'un quart d'heure sur l'anesthésie locale comme chez le dentiste permet d'enlever définitivement le ronflement de l'aluette.
Ça c'est génial, on va tous envoyer nos maris ou nos femmes chez
l'ORL,
se faire couper l'aluette. Juliette, ça a l'air très efficace, effectivement, c'est définitif. Alors, on avait dit qu'on allait quand même parler de ces ronfleurs, qui ne sont pas des ronfleurs simples, hein, qui sont ceux qui font des pauses respiratoires la nuit, voilà, ceux qui souffrent d'apnée du sommeil. D'abord, comment je sais si je suis ronfleur et que je fais quand même des apnées? Parce que, bon, si on a un conjoint, il peut l'entendre, mais c'est quoi, comment on se fait diagnostiquer du
apnée? Le principal moyen de le savoir, c'est la somnolence. On a parlé tout à l'heure de la somnolence. La somnolence est très importante lorsqu'elle est associée au ronflement, parce que le ronflement est un signal d'alarme, mais s'il y a en plus une somnolence, l'image type c'est de Vermont Barre en train de s'endormir à l'Assemblée nationale, c'était un apnéique. Napoléon s'endormait pendant les conseils de guerre, c'était un apnéique. Et donc la somnolence, si elle dépasse un certain stade...
La somnolence dure, vraiment, en journée, celui qui va somnoler un peu avant le soir,
et plusieurs fois, et même pour son travail, mais au volant. Cette somnolence est très importante parce que c'est ce qui va permettre de consulter immédiatement le médecin ORL et de faire un enregistrement du sommeil. Cet enregistrement du sommeil, qui est en fait une technique ambulatoire où le patient dort à la maison, ramène l'appareil le lendemain et on a toutes les courbes d'oxygène dans le sang, les courbes fréquence cardiaque, les courbes d'enregistrement des apnées et des hypopnées, c'est-à-dire l'arrêt respiratoire pendant plus donc de 10 secondes. Et on voit le nombre d'apnées, le nombre de fois la personne s'arrête de respirer. Une apnée, c'est comme un plongeur qui est en plongée sous-marine, mais qui s'arrête et qui bloque la respiration. Souvent, la femme s'inquiète, d'ailleurs, sur ses apnées.
Jimmy ?
Et c'est souvent un peu banalisé, l'apnée du sommeil, et on oublie qu'il y a des complications, notamment cardiovasculaires, il y a un risque de faire un infarctus ou un AVC, ou sur le long terme, la maladie d'Alzheimer. Donc on a besoin aussi de sensibiliser les patients pour leur dire que ronfler, c'est embêtant, l'apnée du sommeil, ça peut être dangereux.
Tout à fait, ça peut être non seulement très dangereux pour l'infarctus, il y a des risques de mort subite pendant le sommeil, des risques aussi de problèmes, si vous voulez, d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux. Et en fait, aujourd'hui, on sait que la plupart des hypertensions, un tiers des hypertensions au moins, sont liées directement à l'apnée du sommeil, sont provoquées par l'apnée du sommeil. Donc on sait que ces problèmes-là peuvent être aujourd'hui améliorés. J'ai eu même un patient qui était apnéique, et grâce au traitement de l'apnée, il avait pu arrêter son traitement de la hypertension.
Et du coup, qui est-ce qu'on va voir ? L'ORL ou le pneumologue ? Parfois, les patients sont un peu...
On peut voir les deux, mais disons, l'ORL a l'avantage de voir directement, si vous voulez, les zones anatomiques qui provoquent le ronflement. Donc, il va voir le nez, le voile du palais et la langue. Et a plus l'habitude de faire un examen, disons, ORL. Et donc, il va permettre de voir un petit peu quelles sont les causes et ensuite pouvoir traiter de façon plus adaptée.
Alors justement, les traitements, parce que là, vous nous avez peur avec tous les dégâts, effectivement, si on ne traite pas, mais on peut traiter, il y a des choses efficaces, notamment le fameux masque pour dormir, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, exactement. Donc là, quand il y a une apnée très sévère, donc qui dépasse 30 apnées, hypopnées par heure, dans ces cas-là, on va mettre le masque à pression positive, qui va permettre donc de forcer le passage au niveau des voies aériennes.
Toute la nuit quand on dort ?
Et toute la nuit quand on dort, on le met. Alors, il y a des masques qui sont aujourd'hui très bien supportés par rapport aux premiers des années précédentes, qui en fait permettent d'avoir d'abord un matériel silencieux, qui ne va pas réveiller le conjoint. Et d'autre part, le masque n'est pas trop invasif pour le patient.
Oui, parce que c'est ce qui fait peur un peu, c'est la vie conjugale, de se dire qu'on a une machine qui fait du bruit, c'est parfois désagréable. Est-ce que les patients ont une bonne observance ? Est-ce qu'on a fait des progrès depuis quelques années ?
Alors, on a fait beaucoup de progrès, parce qu'on humidifie un petit peu l'air qui rentre, etc. Donc, c'est plus facile à supporter. Mais malheureusement, la moitié des patients ne le supportent pas au bout d'un certain temps.
Donc, ah oui, la moitié quand même, donc c'est pas terrible.
Pour cette moitié, on est obligé de proposer autre chose. Donc on prothèse l'orthèse quand il s'agit d'un ronflement lingual, on propose le laser ou la radiofréquence quand il s'agit d'un ronflement du voile du palais avec obstruction et qui provoque les apnées, donc au niveau du voile du palais ou de la langue.
Et quand on fait des apnées du sommeil, c'est pour la vie ce masque-là par exemple ? Si je suis apnéique un jour, apnéique toujours ?
Mais malheureusement, oui, en fait, mais a priori, on s'y adapte de plus en plus, mais il vaut mieux, disons, c'est un petit peu comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si vous enlevez l'épée de Damoclès, vous évitez le risque d'infarctus et d'AVC.
Jimmy ?
En consultation, je vois aussi des parents être inquiets du ronflement de leurs enfants, notamment lorsqu'ils ont de grosses amygdales. Est-ce que c'est problématique ? Et quand est-ce qu'on peut suspecter, par exemple, un syndrome d'apnée du sommeil si les enfants en font aussi ?
Alors, c'est très important ce que vous dites. C'est vrai qu'a priori, l'enfant qui a ce qu'on appelle des kissing tonsils, c'est-à-dire des amygdales qui s'embrassent, qui sont tellement volumineuse qu'elle se touche au milieu. Il suffit de mettre un abaisse-langue dans le fond de la gorge de l'enfant et on vérifie la taille des amygdales. Si elles sont si grosses que ça, elles peuvent étouffer l'enfant. Et elles étouffent pendant son sommeil et l'enfant se lève fatigué, épuisé, il devient insupportable dans la journée parce qu'il a très très mal dormi. Et c'est l'enfant, des fois, qu'on met sous Ritaline et il faut éviter...
On les prend pour des enfants hyperactifs alors qu'en fait, c'est juste des enfants qui dorment mal. Qui
exactement.
Font des apnées,
et qui s'étouffent et qui ont besoin de faire un enregistrement du sommeil, de voir l'ORL, parce que la première personne qui va pouvoir faire le diagnostic, ça va être l'ORL. Et il va pouvoir éventuellement partager le traitement avec l'orthodontiste.
Et vous envoyez des enfants comme ça ? Vous envoyez récemment...
Oui, j'en ai encore vu hier encore. Et un patient qui, comme ça, un jeune homme qui avait été vu le psychiatre au départ et qui, en fait, avait été mis sous ce Ritaline, alors que ça faisait un an qu'on aurait pu le soigner, et s'il avait été voir l'ORL.
Et pour autant, on n'envoie pas tous les enfants qui ronflent chez le médecin. Parce que si mon enfant ronfle mais qui va bien,
Non, il faut simplement déjà, même la personne peut vérifier, enfin la famille peut déjà voir avec un abaisse-langue ou avec une cuillère le fond de la gorge. Si on voit des membres amygdales, il faut aller voir l'ORL.
Merci beaucoup docteur Camami. J'en profite donc pour citer votre livre sur ce thème-là, hein, le ronflement et les apnées du sommeil aux éditions du Dauphin. Grâce à vous, merci, on en sait plus sur les ronflements, sur comment les traiter. On retiendra le laser ou la radiofréquence, mais le traitement par radiofréquence, attention, hein, les effets ne durent que 2 ans, il faut y revenir. Enfin évidemment, le masque hein, pour soigner et aider à respirer ceux qui font en plus des apnées du sommeil, indispensable si on ne veut pas avoir des conséquences sur le cœur ou le cerveau des années plus tard. Alors dans un instant, on va s'intéresser aux bobos de l'été. Cette semaine, on va parler des gestes de premier secours. Si cet été vous êtes témoin d'un malaise cardiaque sur la plage ou même au travail, grâce à tous nos conseils, vous saurez comment réagir. A tout de suite sur Europe 1.
Votre magazine santé sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé-Bien-être, c'est chaque dimanche de 10h à 11h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps de passer à notre séquence, les bobos de l'été. Alors cette semaine, on va parler des gestes qui sauvent, parce que c'est ça aussi l'été, on n'est pas confronté qu'aux piqûres de moustiques ou au mal des transports. Parfois ça peut être plus grave, quelqu'un qui fait un malaise cardiaque devant vous, sur la plage, au bord de la piscine. Alors évidemment, en dehors du fait que c'est très angoissant, que faut-il faire? Comment réagir? Caroline Baudry a été voir ce que les gens connaissent en fait en pratique des gestes qui sauvent. On écoute son micro-trottoir.
T'alertes d'abord direct les secours, ensuite, et ensuite tu fais le minimum que tu peux.
Voilà, lui donner de l'air, de l'eau, ne pas penser que la personne va forcément mourir et qu'il faut s'exciter autour d'elle.
PLS, défibrillateur, j'en connais la fonction. Dans l'urgence, généralement, la théorie s'envole, quoi.
Il faut bien mettre la main sous la tête, avec les jambes légèrement pliées. Enfin, c'est une espèce de position fœtus un peu détendue.
Je ne sais rien faire et c'est une grosse lacune.
Je l'ai appris il y a trop longtemps, je m'en rappelle pas. Plus personne s'en souvient, à mon avis, quoi.
Mais il faut juste avoir confiance dans les gestes qu'on effectue. Et après, je vais faire ce que les secours me disent.
Si au bout de 5 minutes, il n'y a personne qui vient, j'essaierai de faire un massage cardiaque.
Tu te mets Stay in Alive dans la tête. Et en fait, si jamais tu fais ton massage cardiaque sur Stay in Alive, normalement, t'es à peu près bon.
Bon, Jimmy, je crois qu'on voit que la conduite à tenir face à ce genre d'accident, elle n'est pas claire quand même pour tout le monde. D'abord, Jimmy, face à un malaise cardiaque, un accident, d'abord, il y a 4 étapes qu'il faut absolument mettre en place dans un ordre bien précis, je crois.
Exactement. Alors, 1, c'est de sécuriser l'environnement. On évite le suraccident. 2, c'est de vérifier l'état de conscience de la personne. Alors, on dit qu'une personne est en arrêt cardiaque si elle est inconsciente, elle ne bouge pas et ne respire pas. On n'est pas obligé de prendre le pouls. Le pouls, c'est plutôt réservé aux secouristes. Et à partir de ce moment-là, on déclenche la chaîne supplémentaire, c'est-à-dire qu'on alerte. Alors, il faut essayer de demander à quelqu'un de le faire, donc appeler le 15, le 18 ou le 112. Donc, on demande à quelqu'un de le faire. Et puis, la quatrième, on en parlera tout à l'heure, c'est de commencer à faire une réanimation et à faire des gestes qui sauvent.
Donc, le mieux, effectivement, c'est de confier l'appel, par exemple, au secours, parce que ça, il ne faut surtout pas oublier de le faire. Si on est tout seul, on le fait soi-même, en fait, aussi. Hein.
Immédiatement, c'est la première chose à faire.
Ou le SAMU, surtout.
On appelle le 15 ou le 18. En fonction de ce qui nous passe par la tête, parce que parfois c'est des moments de stress. Donc il faut retenir ces numéros très simples. Et là, vous allez tomber sur une assistante de régulation médicale.
Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir, cette assistante?
Ils sont très formés à ça. Donc ils ont l'habitude de poser des questions simples et d'avoir des réponses simples. Donc la personne est probablement en arrêt cardiaque, on dit les mots, elle ne respire pas,
si
elle ne bouge pas.
Si on la connaît pas, on donne pas son nom, c'est pas grave.
Non, c'est un homme, c'est une femme, elle ne bouge plus, elle ne respire pas, elle ne parle pas. À partir de ce moment-là, on va vous demander vos coordonnées, où est-ce que vous êtes, au cas où si jamais.
Ça, c'est très important, l'adresse.
L'adresse.
Hein,
mais souvent, il ne faut pas stresser les gens parce qu'on nous pose les questions, parce que si jamais l'appel venait à être coupé, eh ben, au moins on enverra tout de suite les secours. On pose des questions sommaires et puis tout de suite on envoie des secours. Et parfois même, les secours sont envoyés avant même la fin de l'interrogatoire et avant même d'avoir accroché. On vous envoie une équipe de pompiers et de SAMU. Donc à partir de ce moment-là, on peut commencer ensuite à déléguer les tâches et à commencer à faire une réanimation avec les gestes qui sauvent.
Alors justement, donc on disait c'est la 4e étape et on a fait ça assez vite. Hein. On a appelé les pompiers, tout ça. Si on voit quelqu'un qui tombe, il faut que ce soit fait rapidement. Les gestes de premier secours, d'abord, vous disiez, pour être sûr qu'il fait un massage cardiaque, faut être sûr que la personne ne respire pas, par exemple. On fait quoi? On écoute juste, on met son oreille à côté de sa bouche.
Ça suffit largement, ça suffit.
On
voit que. Alors, il faut essayer de la déshabiller. Donc, s'il y a plusieurs couches de vêtements, on enlève les vêtements. On regarde s'il y a des mouvements d'ampliation thoracique. Elle est inconsciente, donc elle a les yeux fermés. Elle ne bouge pas, ne semble pas respirer. On commence à masser.
Donc, et j'entendais. Massage cardiaque.
Massage cardiaque immédiatement. Et j'entendais tout à l'heure dans le micro-trottoir, au bout de 5 minutes, on voit ce qui se passe. Un monsieur disait non. Sachez que chaque minute de perdu où on ne fait pas de massage cardiaque, c'est 10% d'espérance de vie en moins.
Ah oui.
Chaque minute, 10%. Donc si vous attendez 5 minutes, c'est déjà trop tard.
Ah oui, donc le massage cardiaque, c'est tout de suite. Mais alors, si on n'a jamais massé quelqu'un, moi ça va personnellement, j'ai passé mon brevet de secourisme niveau 1, là, le PSC1, je crois, ça s'appelle. Le massage cardiaque, on fait quoi quand on n'en a jamais fait? On met les mains comment? Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, c'est quoi la bonne technique?
Déjà, mieux vaut mal faire que de rien faire.
Mais si je ne sais pas le faire, je peux y aller. Quoi.
On a tous une idée de ce qu'est le massage cardiaque. Donc, l'idéal, c'est d'être sur un plan dur. Donc, si on
est sur le sable, on va plutôt le mettre sur le terrain.
Si
un
on
peu
peut,
plus dur.
D'être à genoux de façon perpendiculaire à la personne, avec ses deux mains, avec la paume des mains appuyée sur le thorax, en ayant ouvert la chemise. Donc, on n'hésite pas à déshabiller s'il le faut.
Donc, pour des femmes, c'est entre les deux seins, j'imagine.
Exactement,
entre les deux
pectoraux, au niveau du sternum. Et on appuie, on fait une compression assez forte, il ne faut pas avoir peur. Parfois, les gens ont peur de casser des côtes. Mais moi, j'ai envie de vous dire, mieux vaut casser des côtes et sauver une vie que de ne pas y aller. Et on appuie fort pendant 2 minutes, à un rythme assez important. Et souvent, on nous demande, mais à quel rythme aller? Un des auditeurs en a parlé, c'est le rythme de Staying Alive des Bee Gees.
On va écouter justement un extrait.
La fréquence.
Et donc ça, c'est le bon rythme, on écoute. Et donc, on suit quoi? Le paf, paf,
exactement.
Paf.
Et donc c'est intense.
Ah oui, ça va très vite.
On est à 100 par minute à peu près, et donc à ce moment-là, on est fatigué, c'est difficile, donc il faut qu'il y ait des gens autour.
Ça va très vite. Hein.
Parce que même les pompiers, lorsqu'ils le font, au bout de 2 minutes, ils se relaient. Pourtant, les pompiers ont l'habitude, ils sont assez baraques. Donc vous, citoyen lambda, n'hésitez pas à vous relayer au bout de 2 minutes, et on met un chronomètre, parce que 2 minutes, ça peut paraître très long.
Et éventuellement, on chante Staying Alive dans sa tête pour garder le rythme. Quoi.
Alors j'ai jamais vu de patient chanter à ce moment-là, mais malgré tout, on peut se le mettre dans la tête. Hein, ouais. Non, mais c'est vrai, il y a des playlists qui existent qui nous montrent justement comment faire le massage cardiaque avec le bon rythme.
D'accord. Et donc c'est très intense, très soutenu. Si on le fait correctement, normalement on transpire un peu, on est fatigué. C'est quelque chose qui est intense. Hein.
C'est intense, c'est difficile. Et pendant ce temps, il ne faut pas oublier d'envoyer quelqu'un pour chercher un défibrillateur. Parce que c'est ce qui sauve les gens. Donc à côté, on demande aller chercher dans le coin un
défibrillateur. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'endroits publics. Normalement, on doit en trouver.
Il y a aussi des applications qui permettent de les localiser parce que c'est ce qui sauve.
Ça pareil, le défibrillateur, s'il arrive, donc je suis en train de faire mon massage cardiaque, une personne m'apporte un défibrillateur, je vais savoir m'en servir, il y a la notice à l'intérieur, comment
c'est tout
ça
simple.
Marche
ouais. Il y a 3-4 étapes à respecter, on ouvre la machine, on déshabille le patient, il y a 2 patchs à mettre, on appuie sur un bouton pour l'allumer, c'est la machine qui vous dit ce qu'il faut faire. Donc on suit simplement les instructions de la machine, et j'aimerais juste rappeler aux gens que le bouche-à-bouche n'est pas obligatoire.
Ah, on fait plus ça.
C'est pas obligatoire parce que je peux comprendre des gens qu'on n'ait pas forcément envie de faire du bouche-à-bouche, et parfois,
qu'on connaît pas,
parfois dans des conditions un peu difficiles, donc mieux vaut masser. Et ne pas s'arrêter que d'essayer de faire du bouche à bouche, c'est pas obligatoire.
Parce que sinon, on peut masser, quand on connaît, en tout cas, masser alterné avec le bouche à bouche.
Pourquoi
c'est
pas
ça?
On fait 30 compressions et 2 insufflations, donc on fait 2 fois. Mais mieux faire un massage cardiaque continu, c'est beaucoup plus efficace que de faire une insufflation qui ne marche pas. On met le défibrillateur et il vous dit si vous pouvez choquer, c'est-à-dire appuyer sur le bouton, ou s'il faut continuer le massage.
Alors, on rappelle aussi que pour finalement être prêt, si un jour ça arrive, l'idéal, c'est donc de passer son premier niveau de secourisme, qu'on appelle donc le PSC1. Je crois que c'est pas très cher et on peut même le faire. Des fois, il y a certaines entreprises qui le proposent à leurs employés gratuitement.
Exactement. Oui,
ça vaut le coup de faire cette petite journée.
Ça coûte entre 20 et 50 euros. La Croix-Rouge en propose. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup de retard en France. On ne sait pas faire ce genre de gestes qui peuvent sauver et qui peuvent sauver vos proches et puis aussi des inconnus. Donc, voilà, allez-y, formez-vous. C'est très simple, c'est très ludique.
Une journée
et c'est réglé pour la vie.
Donc ça, c'est effectivement, on va tous passer notre brevet de secourisme, c'est évident, ça paraît évident. Merci beaucoup Jimmy. Alors dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 11h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Alors aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler des vieux couples, de ceux qui sont ensemble depuis longtemps. Comment entretenir la flamme sexuellement après des années de vie commune? On vous dira tout dans un instant.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie.
Alors avec vous, tout l'été, on a parlé sexualité avec des sujets qui nous intéressent tous, des questions sexo qu'on se pose et dont on n'ose pas toujours parler. Alors aujourd'hui, justement, on va parler d'un sujet qui va intéresser tous ceux qui sont en couple avec leur chair et tendre depuis un certain nombre d'années. Pas facile d'entretenir la flamme d'un point de vue sexuel après 10, 20 ou 30 années de mariage, par exemple. C'est justement la question que se pose Aurélie, qui nous écrit de Perpignan. Elle est avec son conjoint depuis 18 ans. Alors elle nous écrit donc la lettre suivante. Bonjour. Après plusieurs années de mariage, nous sommes toujours heureux et amoureux, mais nos rapports sexuels se sont largement espacés au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on ne fait plus l'amour qu'une fois par mois environ, parfois moins. Est-ce que c'est normal? Et surtout, comment faire pour revenir à un rythme plus fréquent? Alors Catherine, on va d'abord lui répondre. Est-ce que faire l'amour une fois par mois, voire moins, c'est normal?
Alors d'abord, la normalité, c'est une question qui est intéressante. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal d'un point de vue physiologique? pourquoi pas. Est-ce que c'est normal d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire d'un point de vue du plus grand nombre? Ben, il suffit d'interroger effectivement les couples et on se rend compte que souvent, en effet, il y a moins de désir sexuel. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une faisabilité. Donc, la normalité, ça ne veut rien dire hein, en réalité. Donc, qu'est-ce qui est normal pour elle par rapport à son propre désir? Peut-être a-t-elle du désir et elle déplore de ne pas être en fonction sexuelle parce que le couple n'interagit pas comme elle le souhaiterait.
Jimmy ?
Est-ce qu'on est tous pareils et que le désir baisse au bout de, pour certains au bout de 3 ans, d'autres c'est 5 ans, d'autres c'est 10 ans ? Est-ce qu'il y a un nombre d'années à partir duquel où forcément bah, il y aura moins de rapports sexuels qu'avec les autres ?
Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment fonctionne le désir. Il y a évidemment une imprégnation hormonale, puisque c'est la testostérone qui est à l'origine du désir, et les femmes sont plus sensibles à la testostérone, donc elles ont besoin d'avoir moins de testostérone pour être aussi actives et proactives dans la sexualité que ne le sont les hommes. Ceci étant, il n'y a pas qu'une histoire hormonale, il y a une histoire aussi de relation. C'est-à-dire que ce qui suscite le désir, c'est l'envie d'attacher l'autre à soi, c'est l'envie de créer une intimité, c'est l'envie d'être indispensable pour l'autre. C'est pour ça que dans un début de relation, on est extrêmement actif, même si la sexualité pour certains n'est pas un sujet primordial, ce moment-là est un moment d'ancrage dans la relation. Et une fois que la relation s'est ancrée, eh bien, ceux qui sont plus en difficulté, moins intéressés par la sexualité, finissent par déserter un peu la relation, parce qu'il y a d'autres choses qui sont les choses prioritaires pour eux.
Donc, mais on ne peut pas dire il y a 3 ans, 5 ans, il n'y a pas une règle en tout cas absolue. Il y a des couples chez qui ça dure tout le temps, cette frénésie sexuelle qu'on attribue souvent au début. Mais
Non, c'est-à-dire que c'est toujours des mouvements. Parce qu'en fait, pour que la sexualité perdure sur la longueur des ans, il faut la réinventer. Et la réinventer, ça ne veut pas dire des parties fines ou des positions coquines ou changer de pièce dans la maison. Ça n'est pas du tout ça. C'est se remettre en situation et ne pas se laisser porter par la vague. Or, au début, on vit un désir qui est porté par l'inquiétude. L'inquiétude de ne pas compter pour l'autre, l'inquiétude de ne pas attacher l'autre à soi. Donc on met la surmultipliée, on surjoue même nos possibilités. Et évidemment que...
Donc une fois que ça fait 15 ans, on ne surjoue plus du tout, quoi, en fait, c'est
alors,
ça.
Alors voilà, et du coup, on oublie...
Je ne parle pas par expérience, hein, c'est pas ça.
Non, mais bien sûr, on n'en imaginait pas. Donc en effet, on ne surjoue pas, mais on oublie de jouer. C'est-à-dire, on oublie d'écrire la relation. Il n'est pas question de surjouer, évidemment, parce que c'est complètement fake, donc ça n'a pas d'intérêt. Par contre, on a à jouer, c'est ludique la sexualité. Ce n'est pas une histoire sérieuse, ce n'est pas une tempête sous un crâne. C'est vraiment quelque chose de l'ordre d'une découverte de soi, d'une redécouverte de l'autre. Et l'erreur des couples, c'est de penser qu'ils se connaissent par cœur. Ils se font parler l'un l'autre. Oui, non, mais je sais que tu penses ça, je sais que tu dis ça, ou je sais que ça te plaît, ou je sais que ça ne te plaît pas. Et en fait, nous n'en savons rien, parce que souvent les couples se rencontrent avec une façon de s'aborder.
Et on peut changer aussi.
Exactement, puis on évolue parce qu'on grandit, on mûrit, on se désinhibe sur certaines choses, on apprend des choses qui viennent de l'extérieur, de tout ce qu'on a pu observer, des échanges avec les uns et les autres, et du coup il y a des choses qu'on voudrait pouvoir vivre, mais comme on nous a connus selon un modèle, par peur de déstabiliser la relation, nous restons de façon métronomique dans le domaine dans lequel nous avons évolué. Et du coup, eh bien, on désérotise la relation.
Jimmy ?
Une vie sans sexe, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut être un couple épanoui sans sexe sans pour autant que l'un ou l'autre aille voir ailleurs ? Parce que c'est facile de dire que, bon, on n'a pas de relation, mais si on couche à droite et à gauche, forcément,
on
c'est
parle pas des mêmes choses.
Mais est-ce qu'on peut vraiment être épanoui, alors même quand on a peu ou pas de rapport sexuel ?
Il y a des gens qui trouvent tout à fait leur équilibre, et d'ailleurs, ils se sont choisis un peu pour ça, c'est que la sexualité était pour l'un et pour l'autre plutôt un sujet difficile, et grâce à l'autre qui partage un peu cette même inhibition, cette même difficulté, eh bien...
Ou pas important, il y a des gens pour qui c'est pas important, oui, c'est possible ça aussi.
Ils mettent leur sexualité sur d'autres choses.
Sans être vieux, hein, c'est-à-dire que sans être, je sais pas, avoir 70, 80 ans, on peut avoir
jeune,
30, 40
sûr,
ans...
Bien sûr, mais on peut être... Oui, il y a des couples qui n'ont pas de sexualité pénétrante, qui ont une sexualité extérieure, d'autres qui n'ont même pas une sexualité autour du sexe, et qui est plutôt une histoire de câlin, de tendresse, et d'autres qui sont dans des relations qu'on pourrait dire fraternelles, mais qui ont une intimité très forte d'échange. Et pour eux, ils se sont mis ensemble justement pour se protéger de la question de la sexualité, qui est une question problématique pour eux. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est problématique, est-ce que vous ne voulez pas y réfléchir ? Mais après tout, au nom de quoi on est obligés tous de passer par les réflexions sur tous les sujets, notamment sur celui-là ?
Je vois que Jimmy a beaucoup de questions, allez-y.
Non, mais vous serez aussi concernés, Mélanie, ne me cherchez pas. Est-ce que c'est plus difficile pour les couples qui ont été ensemble très jeunes ? Par exemple, on s'est s'est mis en couple, je sais pas, à 20 ans. Est-ce que c'est plus dur lorsqu'on a 40 ans que si finalement on était en couple un peu plus tardivement, avec une expérience un peu plus importante? Est-ce que la crise est plus difficile à ce moment-là?
Bien, en fait, le fait que de s'être mis en couple très jeune et de ne pas avoir expérimenté des choses, quand je dis des choses, c'est pas nécessairement de la sexualité avec d'autres, d'avoir mûri. Passer du stade enfant au stade couple, c'est s'être protégé, de faire face à soi-même, de se comprendre, de se chercher. Et du coup, on croit qu'on a écrit sa vie et on peut en fait continuer à écrire ce qu'on nous a enseigné et répéter ce dans quoi nous avons grandi. Et du coup, quand on mûrit, quand on découvre des choses de sa vie par le biais de sa vie professionnelle, bien tout d'un coup, on se dit « mais je suis peut-être passée à côté de beaucoup de choses et je n'ai pas écrit des choses moi-même ». Et c'est là qu'en effet, les crises arrivent. Donc ce n'est pas qu'il faudrait avoir essayé tout le village avant de choisir son mari ou sa femme. Voilà, non, ce n'est pas du tout ça. Ou chercher l'homme ou la femme de sa vie qui est peut-être à l'autre bout du monde, donc il faut essayer la planète entière. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas le nombre d'expériences qui fait la qualité de la relation, c'est la maturité de l'individu. Alors on peut être mature à 21 ans, on peut être mature à 35 ou jamais d'ailleurs.
Merci beaucoup Catherine. Alors nous vous donnons donc rendez-vous dimanche prochain dès 10h avec Jimmy Mohamed et Catherine Blanc. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Vous pouvez également nous laisser un message sur la page Facebook d'Europe 1 ou sur Twitter.
Merci Mélanie Gomez, le magazine de la santé. Si vous l'avez raté ou pris en chemin, eh bien n'hésitez pas à vous connecter sur europe1.fr pour les podcasts, mais aussi sur vos téléphones, vos smartphones avec notre super application. Restez avec nous, on part en balade dans un instant, ce sera avec Frédéric Taddeï juste après l'info.